Sommes-nous génétiquement modifiés par ce vaccin ARN messager? Réponse toute faite et entendue maintes et maintes fois, non, puisque la vaccination ne change pas le génome. Le NIH, l'Institut national de la santé américaine, et plus précisément sa branche spécialisée sur le génome, le déclare sur son site. Ouvrons les guillemets. Les vaccins ARN messager sont sûrs et ne peuvent pas altérer votre ADN et vous ne pouvez pas attraper le Covid à partir du vaccin. Ce qu'il y a de bien dans cette phrase, c'est qu'à l'énoncé de deux messages accolés qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, notre curiosité s'allume d'un coup. Dire qu'ils ne peuvent pas altérer votre ADN est faux. Ils le peuvent. Disons-le tout d'abord avec des mots très simples. Je prends une tomate. Je lui injecte un ARN messager de singe, empaqueté dans une soucoupe NPL. Le produit injecté va diffuser, les soucoupes vont fusionner avec plusieurs cellules de la tomate et donc vont fabriquer la protéine de singe. Maintenant, posons-nous la question suivante. Cette tomate est-elle génétiquement modifiée? Oui. Et si l'on remplace la tomate par un humain et l'ARN messager de singe par celui de Spike, est-ce que la réponse change? Non. À partir du moment où notre patrimoine génétique est augmenté d'une information génétique, sans savoir quand cessera cette modification et sans connaître ses impacts génétiques, comment peut-on dire que ces vaccins ARN messagers ne nous modifient pas génétiquement? Et comment comprendre autrement les explications de Moderna qui a breveté le terme de « logiciel de la vie » pour décrire cette technologie révolutionnaire d'ARN messager. L'individu change son patrimoine génétique en ce que les scientifiques ont codé. Tal Zaks, médecin-chef de ce laboratoire, précise lors d'une conférence TEDx à Boston aux États-Unis en 2017. Il ajoute, et la citation est un peu longue, ouvrons les guillemets. Dans chaque cellule, il y a cette chose appelée ARN messager, ou ARNm en abrégé, qui transmet les informations critiques de l'ADN dans nos gènes à la protéine, qui est vraiment ce dont nous sommes tous faits. Ce sont les informations critiques qui déterminent ce que fera la cellule. Ainsi, nous le voyons comme un système d'exploitation. Donc, si on peut faire ce changement en vrai, si on peut introduire une ligne de code ou changer une ligne de code, cela entraîne de profondes implications pour tout, de la grippe au cancer. Fermez les guillemets. J'entre maintenant dans les détails, tant cette question de modification est fondamentale pour notre humanité. Commençons par nous demander de quoi nous parlons. Le génome, déjà. C'est l'ensemble du matériel génétique d'un organisme. Ce mot résulte de la fusion du mot « gène » avec le mot « chromosome ». C'est donc le livre de la vie de chaque organisme, le nôtre, comme celui des animaux, des végétaux et des microbes. À quoi sert-il? À rien de moins qu'à instruire les fonctions indispensables à la vie. Sans lui, pas de vie possible. Il programme le développement, le maintien, mais aussi la reproduction de l'organisme. Le développement, c'est le fait de passer de la cellule œuf à un embryon, du fœtus à un bébé, d'un enfant à un adolescent et enfin à l'adulte. Le maintien, c'est le fait de vivre. Et la reproduction, c'est le fait d'avoir des enfants. Assurer tous ces programmes est un travail de groupe. Par la mise en œuvre de toutes nos informations génétiques, donc de tout notre patrimoine, qui va de nos ARN et de nos deux génomes, celui du noyau et celui des mitochondries, mais aussi par la rencontre avec de nombreux autres organismes, hommes, animaux, plantes, microbes, etc., nos génomes interagissent. Dans le cas des virus, cette rencontre peut être éphémère ou durable. Des bouts de génome de virus peuvent nous envahir et pénétrer au cœur même de notre coffre-fort. Les virus sont faits d'ADN ou d'ARN. Et ce n'est pas parce qu'ils sont faits d'ARN qu'ils ne vont pas pouvoir envahir notre génome. Comme l'ARN ne peut pas entrer directement dans l'ADN, il passe par une étape de transformation. Celle-ci répond au nom barbare de transcription inverse. Une transcription, mais à l'envers, qui va réécrire l'ARN en ADN. Et alors, cet ADN de virus pourra entrer dans le noyau et s'intégrer à notre génome. Cette compréhension n'est pas récente, elle nous vient de la découverte incroyable à l'époque faite par Rudolf Jainisch et son équipe en 1974. Après avoir pris des embryons de souris à un stade très précoce, les scientifiques leur ont injecté de l'ADN du virus Mölonei, connu pour déclencher des cancers du sang, et ont ainsi découvert que des séquences d'ADN de ce virus s'étaient intégrées non seulement dans le génome des souris, mais aussi dans celui de leur progéniture. Aujourd'hui, on estime qu'environ 8% de notre génome est fait de ces séquences de virus, ce qui signifie que des séquences virales ont bien la capacité d'envahir notre génome et qu'on hérite de l'histoire de ces rencontres avec des virus. Des années plus tard, ce chercheur et son équipe se penchent sur le fameux SARS-CoV-2. Et là, gros pavé dans la mare, ils montrent que des séquences d'ARN du SARS-CoV-2 peuvent s'intégrer au génome des cellules humaines en culture, c'est-à-dire in vitro. Et comme on doute de ces résultats lors de leur pré-publication, l'équipe utilise trois techniques différentes pour le démontrer, qu'elle publie dans la revue de l'Académie des sciences américaines. Et in vivo? Eh bien, là aussi, on savait dès l'été 2020, grâce à une équipe américaine, qu'un bout de coronavirus avait atterri dans notre génome. Un bout si ressemblant au SARS-CoV-2 qu'il partage avec lui 95% d'identité. Encore un argument permettant de comprendre qu'un bout d'ARN de SARS-CoV-2 peut vraiment s'intégrer dans notre génome. Et pas n'importe où en plus, puisque cette étude montre que ce bout est situé dans le gène NTGN1, qui est un gène impliqué dans la schizophrénie. Alors comment cela se passe-t-il? Puisque c'est de l'ARN et que notre génome est fait d'ADN, c'est ce qu'on nous a répété. Prenons l'exemple du virus du sida. Ce virus entre dans le corps avec une sorte de couteau qu'on appelle reverse transcriptase, qui lui permettra de se faire une place dans le génome. Dans le cas du SARS-CoV-2, le virus arrive sans couteau, mais utilise notre couteau à nous, parce que nous en sommes aussi équipés. Et c'est grâce à ce couteau qu'il peut s'intégrer au génome de nos cellules. Jainisch rapporte que le SARS-CoV-2 possède vraisemblablement d'autres moyens encore de s'intégrer, mais qu'on ne les connaît pas tous. Cette publication n'a pas manqué de susciter une controverse folle, car évidemment, la question sous-jacente en est « L'ARN vaccinal peut-il aussi intégrer notre génome et donc modifier notre descendance ?» Et la réponse est oui. Ce que l'on sait par une étude suédoise parue en février 2022 et donc très récente publiée dans la revue « Current Issues in Molecular Biology », c'est qu'en mettant un peu de vaccin à ARN messager en contact avec des cellules humaines en culture, les petits couteaux se réveillent. Et en plus de se réveiller, ils reconnaissent l'ARN messager vaccinal et sont capables de le réécrire en ADN. Mais ce n'est pas fini. Contre toute attente, une étude de septembre 2022 révèle qu'on a retrouvé la protéine Spike avec son ARN messager dans le coffre-fort, dans le noyau. Et on ignore tout des conséquences. Alors que le NIH avait dit « L'ARN messager n'entre jamais dans le noyau de la cellule, qui est là où notre ADN, c'est-à-dire notre matériel génétique, est gardé. » Par ailleurs, la modification génétique peut se situer au niveau épigénétique. Par exemple, certains virus sont capables d'accélérer l'âge épigénétique dans le sang, avec la possibilité d'augmenter les maladies cardiovasculaires. Cela signifie que même s'ils n'envahissent pas le génome, ces virus, dont le SARS-CoV-2, sont capables de modifier l'ADN au niveau épigénétique. L'histoire ne va pas plus loin pour le moment. Cependant, toutes nos connaissances depuis 1974 démontrent qu'il est absolument faux de dire que les vaccins ARN messagers ne peuvent pas altérer notre ADN. J'irai même encore au-delà. Compte tenu de la stabilité inédite de cet ARN messager vaccinal qui persiste dans nos cellules, comment imaginer que tôt ou tard, cet ARN messager ne rencontrera pas un de ces petits couteaux? Et qui dit rencontre, dit réécriture en ADN, donc passage dans le noyau et intégration possible. Le fait que l'ARN messager reste anormalement longtemps dans nos cellules augmente d'ailleurs les risques de cette rencontre. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. On a même des films qui montrent des cellules en train de fusionner les unes avec les autres, de rapprocher leurs noyaux et de devenir géantes. Ces films nous expliquent que c'est Spike qui réalise ces fusions, encore et toujours cette protéine dont nous sommes devenus l'usine à production à cause de ces vaccins ARN messagers. Je cite l'étude. Il est raisonnable de présumer, jusqu'à preuve du contraire, que Spike puisse fusionner certaines cellules chez les individus vaccinés. L'ennui, c'est qu'en fusionnant des cellules, on altère l'épigénétique de l'ADN et que l'on augmente le risque de cancer, donc de modification génétique, encore une fois. Nous aurions pu nous attendre à ce que, étudiant un médicament de nature génétique comme l'ARN messager, les laboratoires aient d'abord analysé la toxicité de ce médicament sur le génome, tout comme sa capacité à induire des cancers, car un génome touché égale souvent cancer. Cela n'a pas été fait avant. Mais cela n'a pas non plus été fait après. Car à la suite de ces études qui ouvrent la porte à une toxicité possible pour notre génome, on parle de génotoxicité, la réaction des laboratoires comme celle de la communauté scientifique est étonnamment inexistante. Pourquoi cette absence de réaction? Parce que, comme diraient mes enfants, c'est malaisant. Ça provoque un malaise. Pourtant, nous devrions être en confiance, car comme tous les grands organismes scientifiques, le CDC nous avait aussi assuré que les vaccins Covid, ouvrons les guillemets, ne changent ni n'interagissent avec notre ADN de quelque manière que ce soit. Fermez les guillemets. Sauf qu'aux États-Unis, la liberté d'information étant une obligation, on serait parfaitement en droit d'interpeller ces organismes et de leur demander sur quoi ils se sont fondés pour affirmer telle ou telle chose. Et effectivement, sommer de partager les informations qui lui permettent de nous certifier cette absence totale de changement génétique par le vaccin Covid, le CDC a répondu. Ouvrons les guillemets. Une recherche dans nos dossiers n'a révélé aucun document relatif à votre demande. Comprenez, circulez, il n'y a rien à voir. Imaginez qu'on a injecté ce vaccin à des millions d'hommes et de femmes, de jeunes et maintenant d'enfants sans avoir pris la moindre précaution pour protéger la molécule la plus intime qui soit notre ADN, notre génome, notre patrimoine génétique, me plonge dans une perplexité vertigineuse. Souvenez-vous. Vers fin 2021, ces documents de 450 000 pages que Pfizer comptait nous donner après 75 ans et 4 mois, toujours est-il que dans ces mêmes documents, on peut lire page 30 exactement, une liste d'effets secondaires d'intérêt particulier. Et là, gros choc. Déjà du fait de leur nombre, pas moins de 1291 maladies sont listées comme effets secondaires d'intérêt particulier par Pfizer. Pour ne citer que la première ligne, et la première maladie, syndrome de délétion 1P36, soit une anomalie chromosomique, en gros, la perte d'un bout du chromosome 1. Et qui dit perte d'un bout du chromosome 1 dit une dysmorphie faciale distinctive, une hypotonie, un retard de développement, une déficience intellectuelle, des crises d'épilepsie, des malformations cardiaques, une absence ou un retard d'acquisition du langage et un retard de croissance prénatale. C'est ce qu'on peut lire dans Orphanet, la Bible des maladies génétiques. Autrement dit, une maladie handicapante, faite de malformations, visage et cœur, avec déficience intellectuelle et état de faiblesse musculaire. Et je le rappelle, ce n'est que la première ligne d'une liste terrifiante. Comment un vaccin à ARN messager peut-il avoir le moindre lien avec la délétion d'un bout de chromosome? En me penchant longuement sur les maladies listées par Pfizer comme effets secondaires, j'ai eu la désagréable surprise d'y trouver non pas une, mais 90 maladies génétiques répertoriées comme telles par l'organisme Orphanet. On espère donc avoir une explication sur ces 1291 maladies et en particulier ces 90 maladies génétiques qui figurent comme des événements indésirables du vaccin. Et pendant qu'on y est, on ne cracherait pas non plus sur une explication de la Croix-Rouge américaine. Parce que, figurez-vous que cette institution chargée parmi d'autres de la transfusion de sang aux États-Unis annonce le 19 avril 2021 dans un tweet qu'elle n'utilise que le sang des non-vaccinés. Étrange, non ?